Bonjour, ici Richa El Hadji et bienvenue dans First Time Founders, le podcast des aspirants entrepreneurs. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui se lance pour la première fois. Ici, on démystifie la réussite. Loin des strass et des paillettes qui collent à la peau du monde de l'entrepreneuriat, mes invités vous parleront de leur vécu, de leur parcours et de leurs difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et vous fournira la dose d'inspiration et de motivation qu'il faut pour vous lancer. Bonne écoute! Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Hector Ballas, le cofondateur et CEO d'Impala, une entreprise qui propose des outils d'orientation ludique pour les jeunes de 13 à 25 ans. Avec Hector, nous allons parler de son parcours, du lancement et des premiers mois d'Impala, des principales problématiques en termes d'orientation dans notre monde et des solutions que propose Impala pour lutter contre. Nous allons aussi parler de sa séparation avec son cofondateur, des moments difficiles qu'il a pu vivre et de bien d'autres choses encore.
Hello Hector, merci beaucoup pour d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que je peux te demander de te présenter et de me parler un peu de Impala ?
Bonjour Rita, merci en tout cas de m'avoir invité. Oui, grand plaisir. Donc, je m'appelle Hector, j'ai 27 ans, j'ai monté Impala quand j'en avais 22 à la sortie de l'école. Et qu'est-ce qu'on fait avec Impala ? On travaille sur la question de l'orientation sous un angle éducatif. C'est-à-dire que notre objectif, ce n'est pas de créer un outil magique qui va utiliser des algorithmes extraordinaires et des je ne sais quel test psychométrique pour te dire que tu dois être maçon à 75% et architecte à 22%. Mais on va essayer d'accompagner les jeunes dans leur processus de décision. Donc plutôt que de leur plaquer une réponse toute faite, on va les accompagner pour qu'ils réfléchissent à qui ils sont, à leur motivation, à leurs propres stéréotypes ou préjugés, qu'ils prennent confiance et qu'ils prennent leurs propres décisions. Pour le faire, on développe des outils numériques pédagogiques qu'on déploie dans les établissements scolaires de la 4e à la terminale.
D'accord. Et tu as fondé Impala quand et qu'est-ce que tu faisais avant ?
Alors, j'ai fondé Impala en 2016 et avant, j'étudiais. J'ai fini mes études.
Ah, donc t'as fondé Impala juste après tes études ou pendant tes études, c'est ça ?
À la fin de mes études.
Ok. Et en quoi c'est compliqué de fonder une boîte avant même d'avoir une certaine expérience ? Par exemple, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps Maxime de Spacefeel, qui lui aussi a fondé sa boîte entre la fin de ses études et au milieu en fait, de sa dernière année. Et est-ce que tu penses que c'est plus difficile ou qu'au contraire, ça a beaucoup d'avantages ?
Je dirais que ça dépend de ton caractère. En fait, ça dépend à mon avis de pas mal de facteurs. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Moi, je sais que ça me convient assez bien de fonctionner comme ça. J'apprends beaucoup en faisant les choses et en les vivant. Et j'ai toujours eu un peu de mal avec la hiérarchie traditionnelle que tu retrouves dans les organisations, les entreprises par exemple. Donc, je suis assez à l'aise avec le fait de ne pas savoir faire les choses avant de les faire. Et oui, probablement que j'aurais pu apprendre énormément de plein de gens, mais ce n'est pas comme ça que j'apprends le mieux. J'apprends beaucoup en me tolant et en me cassant la gueule. Et je suis énormément cassé la gueule. Donc, j'ai beaucoup appris.
Je pense on va revenir sur les moments où tu t'es cassé la gueule. Mais avant ça, est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire derrière la création de Impala, comment tu as rencontré ton cofondateur et comment vous est venue cette idée ?
Alors, on n'a pas eu d'idée en fait. On n'a pas eu d'idée. Je pense que c'est plutôt un constat de besoin qu'une idée. Et le mythe un peu de l'idée originelle qui fait que tout marche bien et qui fait qu'on ait une forme d'espoir autour de l'idée qu'on attend et un jour, quand on aura l'idée magique, on va se lancer. Moi, j'y crois pas trop. Et puis même. C'est pas trop la vision de la société que j'ai envie d'avoir. C'est-à-dire que qu'un mec sorte de nulle part, un homme providentiel ou une femme providentielle arrive et trouve l'idée miracle, bah ça pose la question de ce que faisaient les gens avant. Quoi. Ils n'avaient pas d'idée. Et je trouve ça un peu bizarre quand même. Alors que je pense que c'est beaucoup plus une quête sur à partir du moment où tu t'identifies qu'il y a un besoin X ou Y, ou alors que tu cherches les besoins tout simplement parce que tu es en quête entrepreneuriale. C'est beaucoup plus comme ça, à mon avis, que ça se passe. tu identifies un sujet, et tu le creuses, et tu essaies de reposer un peu tout à plat pour voir s'il n'y a pas un trou dans le potage. Quoi. Et je pense que c'est plutôt ça la démarche qu'on a eue. On avait une intuition autour de la question de l'orientation. On ne savait même pas trop d'où elle venait, en fait. Pourquoi est-ce qu'on était intéressé par ce sujet-là? C'est juste qu'on avait cette intuition que ce sujet était important, que ça nous touchait particulièrement. Et c'est en le creusant qu'on a abouti sur Impala. Et qu'au final, on a réussi à faire de l'innovation, non pas à partir d'une idée extraordinaire, mais plutôt à partir d'un travail de recherche, action qu'on a mis en place pendant plusieurs années. Hein. Et puis, alors, qu'est-ce qui... Là, je suis capable de le dire 4 ans après sa création, mais... Le pourquoi Impala, pourquoi est-ce qu'on a fait ça et pas autre chose. Ça, je le comprends en relisant le parcours pré-Impala. C'est un parcours où moi j'ai eu toujours beaucoup de chance. Hein. Je viens d'un milieu favorisé, parisien, j'étais dans un bon collège-lycée avec une famille qui est plutôt riche et pas trop de problèmes là-dessus. Et par contre, j'ai eu une sorte de courant électrique qui a parcouru mon corps quand j'étais au lycée, puisque je suis passé de quasiment premier de ma classe quand j'étais au collège à quasiment dernier de ma classe quand j'étais au lycée. Donc, j'ai eu une sorte de chute comme ça où ma connexion avec l'école est devenue de plus en plus chaotique, où les professeurs me rejetaient de plus en plus parce que je les rejetais et vice versa, une sorte de cercle vicieux comme ça, où je me suis beaucoup construit contre les choses. Je me suis construit contre le système scolaire, je me suis construit contre mes profs, je me suis même construit contre certaines représentations qu'on pouvait avoir de moi. Et donc, j'ai mis en place plein de mécaniques pour ne pas me faire virer de mon lycée. Qui ont assez bien marché d'ailleurs, parce que je me suis jamais fait virer. Et j'ai eu mon bac avec 10,3 de moyenne. Je suis parti en classe préparatoire parce que tout le monde me disait que c'était impossible pour moi. Donc, je me suis dit, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et parce que à l'époque, j'avais deux idées en tête, soit je devenais astrophysicien, soit je devenais entrepreneur. Et je pense que j'avais l'impression que c'était le meilleur chemin pour moi si je voulais devenir entrepreneur. Donc, je suis rentré là-dedans, je suis devenu premier de ma classe en prépa. Et puis, je suis rentré à l'ESSEC où je suis devenu quasiment dernier de ma promo. Et en fait, quand je relis un peu ce parcours de manière un peu simplifiée et du coup caricaturale, en fait, quand je savais pourquoi je faisais les choses, bah, je me donnais à fond et ça m'éclatait et je me sentais super bien. Inversement, quand ça m'ennuyait, je faisais juste le minimum syndical pour ne pas me faire virer.
Tu t'ennuies à l'ESSEC ?
Comment ?
Tu t'ennuies à l'ESSEC ?
Je m'ennuyais dans les cours à l'ESSEC, ouais.
Ok. Bon, j'ai l'impression que tout le monde s'ennuie en cours, en école de cours. Mais,
Plus ou moins, ça dépend. Ouais, mais enfin, tu vois, typiquement, je pense que il y a plein d'éléments qui font que tu t'ennuies. Il y a le premier, c'est l'hypocrisie de la promesse sous-jacente, qui est une promesse de développement d'esprit critique, de formation professionnalisante, d'humanisme aussi pour l'ESSEC, de prise de recul, etc. Et en fait, t'étudies uniquement l'économie néolibérale, t'étudies pas la sociologie, ça pose quand même des questions. Et l'économie néolibérale, par définition, est quand même très orientée politiquement. On te l'explique en disant c'est comme ça et pas autrement. Et t'as pas mal de mécaniques comme ça où. En fait, c'est pas tout à fait juste, quoi. En prépa, on t'a soi-disant appris à réfléchir, et puis là, d'un seul coup, on t'apprend qu'il faut plus réfléchir, il faut exécuter. Et du coup, ça pose. Enfin, tu vois, c'est normal qu'il y ait, je pense, une sorte de déperdition aussi forte quand t'arrives en école. Et que du coup, t'as un mouvement de recul potentiellement assez violent sur le contenu, quoi. Bref. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu cette prise de recul sur ce parcours-là qui a fait me dire mais alors, pourquoi ça, tu vois ? Pourquoi est-ce que moi j'ai agi comme ça et pourquoi est-ce que les autres agissent pas comme ça? Et en fait, quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que tout le monde agit pareil. Quand tu trouves du sens, tu sais pourquoi tu le fais, tu donnes à fond et tu es hyper motivé, tu as une énergie de malade sur les choses. Et quand tu sais pas pourquoi tu fais les choses et quand tu es juste là parce qu'il faut être là, ben en fait, tu donnes le minimum syndical, tu n'es pas toi-même. En fait. Et en fait, pour moi, c'était ça l'orientation. L'orientation, c'est comment tu redeviens acteur de ton propre parcours. Comment tu reprends le contrôle de ta vie et redéfinis tes propres exigences, tes propres. Enfin, tes propres parcours, quoi, ta propre vie. Et c'est comme ça que je le relis maintenant.
Et quelles sont pour toi les principales problématiques en termes d'orientation aujourd'hui dans notre système scolaire?
Alors plus que dans notre système scolaire, je dirais plus dans un système plus global, hein, puisque toute l'orientation, c'est un sujet qui est assez systémique. Donc, nous, on a identifié qu'il y avait, on va dire, trois grands sujets qui étaient problématiques. Le premier grand sujet, qui est lui le premier, qui est lui très lié au monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde qui va à toute vitesse, un monde du travail que plus personne n'arrive vraiment à comprendre aujourd'hui, sur lequel on est incapable de se projeter à 5 ou 10 ans. Tout le monde dit, ouais, les métiers vont changer, c'est le bordel, tout ça. Et qui a deux conséquences directes. La première conséquence, c'est une anxiété qui est associée à la question de l'orientation. La projection vers l'inconnu devient anxiogène. Et le deuxième, c'est l'évolution, par conséquent, du monde de la formation, qui essaie de s'adapter, mais qui a beaucoup de mal à le faire, parce qu'il le fait reculons. Et résultat, on se retrouve avec une illisibilité de l'offre de formation qui existe. Des passerelles, c'est toutes les réformes, les masters, les masters, les MSc, les MSP, les MST maintenant. Alors, c'est un bordel absolu. Et donc ça, et aujourd'hui, la problématique, elle n'est même plus tant dans l'accès à l'information, parce que grâce à Internet, c'est relativement simple. Elle est plutôt sur comment tu lui donnes du sens à cette information-là. Et en fait, la première grande problématique, c'est ce qu'on peut appeler, avec un vocabulaire journalistique, l'infobésité. Trop d'infos qui tue l'info. La deuxième problématique, elle est dans l'absence de grille de lecture pour appréhender ça. C'est-à-dire que quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, les grilles de lecture pour appréhender le monde qui t'entoure, t'en as pas 38, t'as pas d'expérience. Donc, en vrai, la seule grille de lecture que tu peux avoir, c'est la connaissance que tu as de toi. Le truc, c'est qu'on met tellement d'énergie sur l'acquisition de savoir disciplinaire que qu'on a tendance à en négliger tout le reste. Et la classe préparatoire est particulièrement violente pour ça, où la première chose qui se passe quand tu arrives en école, en prépa, c'est « Tu pensais que tu étais bon au lycée ?»« Ah non, ferme ta gueule, t'as deux là maintenant. » Genre en gros, toi qui étais quelqu'un, « Non, non, ferme ta gueule. » Et la démarche, elle est un peu, elle est assez violente, tu vois, mais c'est une violence qui est voulue, tu vois, c'est l'intransigeance, etc., qui forme de négation de ton individualité. Et ça, c'est le deuxième grand sujet, tu vois. C'est l'absence de processus d'introspection régulier quand t'es gamin. Et du coup, de grille de lecture pour appréhender cet environnement que tu connais pas. Et enfin, le troisième point qu'on a identifié, c'est que même si tu travailles bien sur toi, même si tu travailles bien sur le monde qui t'entoure à partir du travail que tu as fait sur toi, en fait, ça marche pas globalement. Parce qu'il manque un travail initiale de déconstruction des préjugés, de prise de conscience que les stéréotypes, ça existe et que tu en as plein. Et qu'ils viennent parasiter tes jugements tout le temps. Et ça se matérialise par « moi, je suis une fille, je ne peux pas faire des maths », ou « moi, je suis un garçon, je suis viril », ou « moi, je viens d'un milieu défavorisé, je ne peux pas le faire », ou « moi, je viens d'un milieu favorisé, si je ne fais pas comme papa-maman et que je ne deviens pas ingénieur ou médecin, ça peut le faire ». Et tu as tout ce travail initial de déconstruction de ces représentations qui, selon nous, est le troisième gros point qui fait que la réponse, elle n'est pas « je vais faire un test et je vais trouver une solution ». La réponse, elle est beaucoup plus complexe et elle requiert un travail éducatif, méthodologique, progressif et long terme, qui est un peu laborieux, certes, mais qui est nécessaire.
Ok. Et quelle est la proposition de valeur d'Impala ? Parce que tu as dit au tout début que votre but, ce n'est pas non plus de faire des algorithmes hyper complexes pour déterminer avec telle probabilité quelle est la carrière que la personne doit poursuivre. À quoi ressemble en fait le produit Impala ? Qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des parcours pédagogiques pour te faire réfléchir, te faire déconstruire tes représentations sociales, travailler sur toi, comprendre qui t'es, ce qui t'intéresse, te projeter dans l'univers extraordinaire qui est autour de nous et construire ton projet. Et enfin, identifier les prochaines étapes pour le construire. Donc, quand tu es en terminale, les prochaines étapes, c'est Parcoursup et donc le supérieur. Quand tu es en troisième, les prochaines étapes, c'est le lycée.
Ok.
Et donc, comme concrètement, donc on développe un outil numérique qui va permettre aux jeunes de se poser toutes ces questions, de répondre à toutes ces interrogations à travers des mini-jeux pédagogiques.
D'accord.
Donc, le jeune va faire une trentaine, cinquantaine de mini-jeux sur l'année. Pour faire ça, il est accompagné par son professeur principal, par un conseiller d'orientation ou quelqu'un qui est dédié pour son accompagnement et qui va l'accompagner dans tous ses doutes, ses prises de responsabilité, ses questionnements, etc.
Tu peux nous donner un exemple de mini-jeu ?
Alors, typiquement, un mini-jeu sur la déconstruction des stéréotypes de genre, garçon-fille. Concrètement, comment c'est construit ? Donc, tu vas rentrer dans la tête d'un personnage qui va faire une enquête, tu vois, qui va enquêter sur pourquoi les filles sont moins fortes que les garçons en maths. On part de n'importe quelle débilité. Et en fait, à partir de ça, on va lui poser un certain nombre de questions comme s'il était à la place de cet enquêteur. Et il va avancer dans un raisonnement. Et lui, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et en fonction de sa réponse, on va l'amener à un scénario un peu différent. Et à la fin, il va, si en gros il y a une bêtise à un moment donné, il va se rendre compte que c'était débile et que globalement, c'est absolument faux que les filles sont moins bonnes que les garçons. Et donc on va le faire tomber des années avec ses propres contradictions de cette manière-là. Ça, c'est un petit mini-jeu. Un autre petit mini-jeu qui peut être l'exploration d'une sorte de carte interactive de tous les métiers qui existent en fonction d'un travail d'introspection que tu as fait. Donc, tu vois, tu as bossé sur tes motivations et là, tu vas explorer un univers graphique assez sympa où tu vas découvrir plein de métiers.
Ce que je trouve intéressant, en fait, dans votre approche, c'est ce travail d'introspection qui est demandé, du coup, aux étudiants, aux élèves. Et je trouve que malheureusement, on en manque beaucoup dans notre société, plus en France que dans d'autres pays, j'ai l'impression, mais les gens n'ont pas souvent l'occasion et ne le font pas, en fait, parce qu'on ne nous a jamais appris, en fait, à, par exemple, revivre notre journée pour voir qu'est-ce qu'on a ressenti, comment est-ce qu'on aurait pu améliorer les choses, quelles sont les leçons qu'on a retenues, et en fait, apprendre à mieux se connaître. On a souvent l'impression que c'est des démarches qui relèvent un peu des dérives un peu sectaires du développement personnel et que c'est fait pour des bobos ou pour des gens qui sont complètement qui embrigadés dans des pratiques un peu bizarres. Alors qu'en fait, moi personnellement, je pense que c'est nécessaire et que si on nous avait appris à faire ça en fait quand on était plus jeune, on aurait moins de problèmes étant adulte, il y aurait moins de personnes qui consomment des antidépresseurs, des anxiolytiques et moins de personnes qui vont voir des psychiatres en général.
J'ai cette conviction à 100%. Et le développement personnel, ça fait peur, mais si juste d'un point de vue purement sémantique, développement personnel, c'est plutôt sain.
Oui, c'est juste se développer, en fait. C'est pas... Et du coup, quel est votre business model ?
Nous, on travaille avec les établissements scolaires, donc les collèges, lycées, et on commercialise un logiciel auprès des classes de ces établissements scolaires. Donc, c'est un modèle SaaS relativement classique, licence par classe et par an.
Ok, très bien. Et là, tu m'as dit que tu avais rencontré ton cofondateur à Berkeley. Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite, en fait ? Quelles ont été les premières étapes une fois que vous vous êtes dit « Ok, on se lance ».
Alors, ce qui était assez rigolo à cette époque-là, c'est qu'on travaillait sur un sujet qui était quand même un sujet social, c'est-à-dire qui a vocation sociale. Donc, on essayait pas de résoudre un problème qui était purement business, on essayait de résoudre un problème social. Et donc à cette époque-là, on a été pris d'une schizophrénie assez violente, où d'un côté, on était dans une démarche extrêmement startup nation oriented, tu vois, genre en mode faut qu'on fasse du lean parce que le lean c'est cool. Et donc, on s'est enquillé, je ne sais pas combien de bouquins d'entrepreneuriat, on a regardé toutes les vidéos de Sam Amar, on a fait le classique, quoi. Et on s'est dit, vas-y, il ne faut pas perdre de temps à réfléchir, il faut faire, quoi. Tu te poses une hypothèse, tu testes, tu poses une hypothèse, tu testes, tu fais. Donc, ça, c'était 50% de notre temps. 50% de notre temps restant, on est quand même entré dans une démarche d'essayer de comprendre le problème, mais de manière plus générale. C'est-à-dire que tu ne peux pas te limiter à essayer de capter la problématique d'un point de vue business, parce qu'en fait, il n'y a pas de problématique d'un point de vue business. C'est plutôt, tu essaies de comprendre la problématique sociale, et donc c'est une forme de recherche qui, elle, prend du temps parce que la problématique d'orientation, elle est très profonde. C'est-à-dire que ce n'est pas avec un test que tu résous le problème, ce n'est pas avec un logiciel, enfin, c'est très complexe, et il y a des chercheurs qui travaillent dessus depuis des siècles, et personne n'arrivait, enfin, les solutions, il n'y en a pas vraiment, quoi. Personne n'en a vraiment trouvé une solution un peu unique. Donc, c'était plus un travail un peu laborieux, mais extrêmement intéressant, de rencontres avec des chercheurs, de lectures, de papiers de recherche, ou tout du moins qui expliquent les politiques éducatives autour de l'orientation depuis des années, qui expliquent les différents courants de pensée, différentes idéologies derrière ce que c'est que l'orientation, etc. Et ça, c'était... Et pourquoi est-ce que c'était schizophrénique ? Parce qu'il y en a un qui est dans le temps hyper court, et il y en a un autre qui est dans le temps en fait, beaucoup plus long. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a posé une ou deux hypothèses et on a lancé un truc. Donc, on a développé un premier outil, un peu à la mano, on ne savait pas coder, on a appris. On ne savait pas designer, on a appris. On ne savait rien faire, on a appris. Et du coup, on a lancé cet outil. Ça, Ça a moyennement pris au début, puis après, de plus en plus, ça, on a eu 100 120 000 utilisateurs qui sont passés par la plateforme en 8 mois d'utilisation. Donc, c'était quand même pas mal, tu vois. C'était une sorte de premier succès. Et en parallèle de ça, on prenait du recul progressivement, tu vois, sur ce qu'on faisait. Et au bout d'un an, on s'est rendu compte que, en fait, notre vision et ce qu'on avait compris de la problématique était en désaccord complet avec ce qu'on faisait. D'un point de vue donc plutôt éthique. Et là, c'était un peu dur à avaler. Donc c'était assez dur parce qu'on avait quand même mis beaucoup d'énergie dedans et on avait du mal à rebrousser chemin. Et donc là, c'était un peu la grande crise chez Impala à l'époque. On s'est séparé avec mon associé. Et on a supprimé le site en ligne et on s'est dit, vas-y, bah écoute, on va tester un truc. On va supprimer notre site et on va faire autre chose. Et on va essayer de faire quelque chose qui est plus en accord avec ce qu'on a envie d'être. Et on va arrêter de faire de l'information à l'orientation, on va faire de l'éducation à l'orientation. Et qu'est-ce qui a été déclencheur de ça? Il y a plusieurs éléments, entre autres le fait que sur notre outil interactif en ligne qu'on avait à l'époque, qui était à l'époque complètement B2C, il y a une sorte de moteur de recherche sympa, interactif, tout ça. Et le deuxième mot-clé le plus rentré par les garçons dans ce moteur de recherche, c'était trader. Le troisième, garçon-fille confondu, c'était argent. 80-90% des filles enregistraient des métiers de filles, social, santé, enfant. 80-90% des garçons des métiers de garçons, finance et technologie. Et en fait, on s'était retrouvé dans une forme de caricature absolue. Et on avait développé un super outil de mimétisme social accéléré. Quand on commence à comprendre que la problématique, en fait, elle est profonde, elle requiert de travailler sur la déconstruction des biais et des préjugés et sur l'introspection, et quand tu vois que tous les gamins, ils ne réfléchissent pas, ils sont tellement en panique qu'ils essaient juste de déléguer leur prise de responsabilité sur leurs décisions à n'importe quoi, finalement, qui a l'air tant soit peu crédible, bah, en fait, tu te rends compte que juste ça ne va plus, quoi. Ça ne va plus, et donc on s'est dit, ok, on arrête les conneries, on supprime, on tente un nouveau modèle, on fait de l'éducation à l'orientation et on ne travaille plus avec les élèves qui, de toute façon, on n'en a rien à foutre de réfléchir. Si tu veux, c'est une réponse qui sont en flip. On va travailler avec les écoles qui, elles, ont le temps. Et on se regarde un peu plus éducatif sur les choses. Et voilà.
Ok. Super intéressant. Alors, et du coup, après le pivot, est-ce que ça a été compliqué, en fait, de passer d'un modèle full B2C à un modèle B2B? Est-ce que vous aviez, par exemple, dû changer d'équipe ou dû complètement changer de façon de faire et de culture chez Impala ou vous avez gardé les mêmes choses et repris? Enfin, j'imagine pas à quel point.
Non, c'est ma question. Hein. Le pivot, en fait, a été accompagné d'un switch radical de tout, quoi. C'est-à-dire que mon associé qui part, t'as une partie de l'équipe qui est partie avec lui. On n'avait pas d'émis, on n'avait pas beaucoup, beaucoup d'argent non plus, donc on était pris par le temps. Il fallait absolument qu'on trouve un modèle économique rapidement.
Excuse-moi, juste quand tu dis que ton associé est parti, c'est-à-dire qu'il a quitté l'entreprise ?
Il a quitté l'entreprise, exactement.
Ah, et donc tu es resté seul sur le projet ?
Ouais, voilà.
Ah, ok, d'accord, ok.
Et donc, ouais. Et, oui, pardon. Et en fait, résultat, une grande partie de l'équipe qui, du coup, enfin, un peu partie, ils n'avaient plus de travail aussi, tu vois. Enfin, donc, ça joue aussi. Donc, et aussi, je pense que, en fait, il y a des profils. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs sur le B2C. Il y a des gens qui sont meilleurs sur le B2B. Quand tu fais du B2C, souvent, tu fais plutôt du marketing digital parce que tu ne peux pas traiter avec tes clients face à face. Quand tu fais du B2B, tu es beaucoup plus dans du frontal avec tes clients et avec tes utilisateurs. Et donc, ce n'est pas la même démarche, quoi. Ce n'est pas la même type de façon de faire. Ce n'est pas les mêmes mécaniques. Ce n'est pas la même personnalité, en fait. Et moi, je pense que, tu vois, a posteriori, je suis beaucoup plus content de faire du B2B que du B2C. Alors, j'aime bien être en contact avec mes utilisateurs. J'aime bien créer un lien humain avec les établissements, avec les profs. Et je suis super content de travailler avec ces gens parce que enfin, c'est des gens bien, quoi. Et tu vois, je suis très content de ne pas faire d'une ad-tech ou une assure-tech parce que tu travailles avec des banquiers qui s'en foutent, quoi. C'est un peu, ils font leur beurre, ils s'en foutent, il n'y a pas de considération éthique, tu vois. Et on travaillait avec des gens, leur métier c'était d'aider des enfants. Donc je trouve ça plutôt beau et je suis très content de leur parler. Donc je suis assez content, enfin ce pivot-là même, d'un point de vue personnel, personnalité, ça me convient vachement bien. Et donc bref. Donc on a switché, c'était assez dur psychologiquement sur la période où en fait on arrêtait. Mais dès qu'on a acté qu'on arrêtait, dès qu'on est passé à autre chose, en fait, dès qu'on s'est dit ok maintenant on change de regard, on ne regarde plus le passé, on regarde le futur, d'un seul coup c'est devenu super agréable. Parce que d'un seul coup, on n'était plus sur le coup d'un modèle un peu balbutiant, on était sur le coup d'un truc qu'il faut créer de zéro, puis basta quoi. Et en plus de ça, on avait une vision éthique qui nous convenait. Et donc ça a changé complètement la manière de fonctionner, où on était en mode bah ok, on sait qu'on va quoi. Juste là, il faut le faire. Il faut tester, il faut voir s'il y a un modèle économique qui se cache derrière cette vision sociale. Et par chance, il y en avait une. Et en fait, on a eu de la chance parce que donc on a décidé d'expérimenter ça. Et en fait, quelque part, comme 2-3 semaines plus tard, on a signé nos deux premières écoles. Et on se dit, ah, vas-y, show, go. Et ça a été pour nous une sorte de signal, quoi, en mode, OK, il y a un truc à faire. Et avant d'avoir un outil en ligne, parce qu'il a fallu le développer, cet outil qu'on n'avait pas, avant d'avoir un outil qui était en ligne, un nouvel outil, on a eu 60 nouveaux clients. Oh, donc, en fait, on a financé l'outil avec un joli discours commercial et une vision de l'orientation qui était bien plus travaillée, parce que ça faisait un an et demi qu'on l'a travaillé.
Je vais revenir en fait sur cette période un peu compliquée. Comment est-ce que tu as vécu le fait que ton cofondateur parte et quitte l'aventure du coup?
En fait, c'est quelque part assez bien parce que même si c'est la période où, en fait, le plus dur, comme je te disais, c'est le moment où tu comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Le moment où tu sais qu'il va falloir agir. Et c'est ça le plus dur, en fait. Parce que c'est ça où il y a une notion de rupture, il y a une notion de relation qui est forte aussi. Entre deux cofondateurs, c'est hyper intense comme relation. Et tu te rends compte, en fait, cette relation, elle ne marche plus. Qu'elle dysfonctionne, que ça ne sert pas le dessin de l'organisation. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus dur de l'accepter et ensuite d'agir en conséquence que ce qui arrive après. Parce qu'une fois que ce qui arrive après, bah voilà, c'est fini, c'est acté, maintenant on passe à la suite, quoi. Et ça, c'était vachement bien. Ça, c'était des nuits pas ouf, à stresser comme un bâtard. Ouais. Une fois que c'était fait, c'était plus un soulagement, tu vois. C'était ok, bah vas-y, maintenant passe à la suite.
Et quels sont les signes avant-coureurs pour toi d'une relation entre deux cofondateurs qui dysfonctionne? Parce qu'en fait, j'imagine que toi, ton cofondateur, c'est pas un membre de ta famille ou c'est pas. C'était ton ami avant de vous lancer dans l'entreprise?
C'est mon ami là-bas.
Ok. Le problème, c'est quand l'affect rentre dans l'équation, c'est encore plus compliqué. Donc, j'imagine que, par exemple, des boîtes qui sont cofondées par des couples ou par des frères et sœurs, même si la relation dysfonctionne, c'est très difficile de se dire « Bon, ok, là, on arrête pour le bien de la boîte », parce que ça peut vite déraper et devenir « Là, on arrête vraiment même d'être un couple, même d'être frère et sœur ». Et du coup, comment est-ce que toi, tu as ressenti que cette relation commence à dysfonctionner?
Je pense que, alors, a posteriori, ce qu'on n'a pas assez fait, c'est échanger et communiquer. Je pense que si tu mets en place des processus, même très formels, en fait, de communication, je pense que c'est bien. Ça paraît un peu artificiel, mais je pense qu'en fait, c'est utile. Par exemple, te dire que toutes les semaines, tu te vois pendant une heure. Tu ne parles pas de boulot, tu parles juste de comment tu te sens, est-ce que tu te sens à l'aise, enfin, comment tu vis les choses, est-ce que tu es à l'aise avec l'émission que tu as, qu'est-ce qui te saoule, qu'est-ce qui ne te saoule pas, est-ce que l'autre t'a énervé ou pas. Ça paraît con, hein, mais je pense que c'est utile. Surtout quand tu ne te connais pas si bien que ça d'un point de vue pro. Genre, quelqu'un qui a déjà monté une boîte avec quelqu'un, bon, il sait à quoi s'attendre, quoi. Moi, je le connaissais parce que c'était un ami, mais je ne le connaissais pas professionnellement parlant. Et tu vois, maintenant, a posteriori, je pense que je ne bosserai pas avec tous mes amis, même si je leur fais confiance. Je bosserai avec certains par rapport à ce que j'essaie de leur manière de fonctionner au travail. Je pense que l'affect se mêle toujours aux relations de travail. Et genre, on a tous envie de dire que c'est pas vrai. À partir du moment où tu vis avec quelqu'un tout le temps, enfin, à moins que tu sois un robot, tu crées des liens, quoi. Et je pense que tu as besoin de créer ces moments de discussion, d'échange. Alors du coup, je suis J'ai perdu le fil de la question.
C'était comment, quels sont les signes avant-coureurs d'une
Ouais.
relation qui dysfonctionne?
En fait, c'est con, mais je pense qu'en fait, tu le sais très vite. Je pense que tu le sais super vite. C'est parfois, genre, vous répartissez le taf, et tu n'as pas totalement confiance sur le fait qu'il va te rendre un truc qui est au niveau.
Ok.
Ou tu sais qu'il va pas réussir. Ou tu sais qu'en fait, le résultat, peu importe, tu vas douter de sa pertinence. Je pense qu'à partir du moment où tu es dans une posture comme celle-là, c'est difficile de bosser ensemble. Après, ça ne veut pas dire que tu ne le fais pas. Parfois, il faut se forcer parce que tu sais qu'il y a une échéance qui va te permettre ensuite de boucler la boucle. Mais c'est vrai que je pense que ça, c'est le principal point.
Donc pour toi, les prérequis d'une bonne association, ce serait confiance, parce que ça revient souvent dans ce que tu dis. Et tu dirais quoi d'autre?
Et je pense qu'il y a une forme de culture du travail aussi qui doit être similaire. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est dans un délire, moi je bosse nuit et jour à tout venant, ne vous déplaise, et que l'autre est en mode, bah moi j'ai une famille, ferme ta gueule, je rentre chez moi à 19h, basta, tu vois. Bah ça, enfin c'est difficile je trouve pour, à moins que ça soit méga clair dès le début.
Ouais.
Et encore c'est chaud, parce qu'il faut une vraie maturité pour arriver à faire la part des choses. Je pense qu'il y a besoin d'être un peu dans une même phase, tu vois, genre une phase de vie à chercher plus ou moins la même chose. Soit une aventure un peu complètement absurde à bosser tout le temps, soit un truc un peu plus peinard, soit un truc scale à fond, soit une jolie PME, soit tu résous un problème et tu t'arrêtes pas tant que tu l'as pas résolu. Je pense qu'il faut être dans un peu dans le même délire, tu vois. Et puis aussi, culture du travail, ça veut dire quel type d'environnement tu vas valoriser. Est-ce que tu as besoin d'être managé? Est-ce que tu as besoin d'être challengé? Est-ce que tu peux t'auto-challenger? Est-ce que tu es autonome? Est-ce que tu l'es un peu moins? Est-ce que tu es à l'aise avec prendre des décisions, avec prendre des risques, etc.
Et si maintenant tu devais changer quelque chose dans ton parcours depuis la création d'Impala, qu'est-ce que tu changerais?
Ben, il y a deux manières de prendre cette question. La première, c'est si je savais à l'époque tout ce que je sais aujourd'hui, est-ce que j'aurais fait différemment? Évidemment, genre tout. Si la question, elle est. Est-ce que je changerais ma vie parce que je regrette un truc? Je sais pas, j'aurais peut-être pris une autre décision qui aurait été tout aussi mauvaise, j'en sais rien. Je pense
C'est
que non,
plus
je.
la première question. Ouais. Quelles sont les plus grosses erreurs à ne pas commettre si tu devais donner des conseils à un entrepreneur qui a envie de se lancer?
Genre se voiler la face, ne pas comprendre qu'il y a des signes avant-coureurs et les ignorer. Moi, ce que j'ai fait, typiquement. Un autre truc, une grosse erreur que j'ai faite aussi, c'est promouvoir à l'histoire et pas promouvoir à la compétence. C'est-à-dire, en gros, le mec, il est là depuis le début avec moi, ou ça fait longtemps qu'il est là, il est trop sympa, il a monté son équipe, etc. Donc, c'est logique qu'il devienne manager, qu'il devienne lead, machin. Et ça, c'est une connerie monumentale.
Ouais.
Ça, voilà, ça faut surtout pas faire ça. Parce que voilà, chez nous, ça a foutu la merde.
Il faut moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut essayer de rationaliser le recrutement au maximum, mais au maximum, c'est-à-dire dans tous les aspects RH, faire en sorte que le critère fit soit le dernier critère à prendre en compte. Et c'est encore pire là quand la personne est vraiment elle est déjà au sein de l'orga et de se dire bon, je l'aime bien, j'ai envie qu'elle ait une promotion, mais en fait, l'autre est mieux, mais elle n'est pas là depuis aussi longtemps. C'est compliqué, je trouve que ces questions, c'est les plus complexes, en fait.
Oui, je te garde.
C'est toujours les pires, en fait. C'est pas le produit ou les ventes, c'est tout le temps ce genre de questions.
C'est clair, c'est humain, donc c'est le bordel.
Et c'est tout? Il n'y a que ça comme erreur?
Non, non, il y a des millions, mais c'est les deux plus violentes, quoi. C'est les deux qui ont des répercussions gigantesques. Après, oui, enfin, plein d'erreurs. Tu pilotes mal ta trésor, tu te retrouves avec un trou de trésor, tu dois gérer comme tu peux. Et ça te fait stresser à la mort, parce que le fin de mois arrive et t'as pas d'argent, tu pourras rien faire pour payer. Je sais pas. Après, prendre des décisions très impactantes sans te rendre compte qu'elles le sont. Et dans la merde après, parce que t'avais pas prévu que c'était compliqué et toutes les répercussions que ça pouvait avoir. Pas assez te poser sur une décision quand tu la prends. Et pas assez consulter des experts du sujet, qui sont en général très sympas et ouverts d'esprit. en général ouvert, enfin, à prendre un peu de temps pour t'aider.
Donc, tout plein d'erreurs. Ouais, mais en fait, c'est en faisant qu'on apprend. C'est quoi ta vision là pour Impala dans les années à venir?
Alors, au contraire, c'est la question de l'orientation sous un angle éducatif. Et aujourd'hui, on traite cette question avec des jeunes qui ont entre 13 et 18 ans, de la quatrième à la terminale, filière générale, technologique et professionnelle. Donc, des jeunes qui sont scolarisés. Là, on expérimente depuis quelques mois, enfin depuis la rentrée en fait, avec des jeunes déscolarisés, donc des décrocheurs. Notamment dans le Grand Est, on va être amené à travailler avec plus de 5000 jeunes. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, on va travailler également avec des décrocheurs. Ça va être un nouveau défi pour nous, qui va être hyper intéressant. Et les décrocheurs en général entre 16, on va adresser 16 et 25 ans. Puis aussi, on travaille depuis peu avec quelques établissements supérieurs qui ont fait des enjeux d'orientation très similaires, si ce n'est qu'ils sont un peu plus matures et plus grands. Mais au final, on est sur le même type d'enjeux, c'est à savoir déconstruire, se découvrir et construire. Et puis, pourquoi s'arrêter à 25 ans quand tu sais que l'orientation s'arrête quand tu meurs? Donc, et c'est les adultes qu'il faut accompagner, qui ont besoin de se poser les bonnes questions dans une manière intelligente, méthodologique, tout ce que tu veux. Et pourquoi s'arrêter en métropole française? Tu sais que la problématique elle est universelle et qu'elle s'adresse à tout le monde. Et voilà un peu. Donc, en gros, ce que nous, on veut faire, c'est on veut aider tout le monde de 13 à, je sais pas, 1000 ans, on sait rien, en France et dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, on sait qu'on a mis en place les premiers jalons en France et depuis en Belgique, qu'on commence à adresser doucement les jeunes qui rentrent dans le monde adulte de 18 à 25 ans. C'est encore tout nouveau. Et on aimerait, enfin, la vision à 50 ans d'Impala, c'est d'aider un peu tout le monde, quoi. Et d'aider à traiter la question de l'orientation sous un angle éducatif un peu partout dans le monde, en se disant que si on y arrive, en fait, si on arrive à déconstruire les stéréotypes, t'imagines l'effet que ça peut avoir sur la société. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que voilà, je vais choisir un bon métier, il y a quand même, genre, les stéréotypes sont quand même à l'origine de toutes les guerres.
Oui.
Que ce soit des guerres intestines discrètes, comme ce qui peut se passer entre les hommes et les femmes parfois, entre les religions au sein d'un pays, ou ce qui peut se passer entre deux États là-bas, c'est jamais chez nous. Et du coup, tu vois, si on arrive à traiter cette question et qu'on la traite bien, en fait, l'impact peut être considérable.
J'ai pensé à quelque chose, en fait. Je me suis dit, en fait, ton produit serait hyper utile au sein des écoles de co ou / écoles d'ingénieurs. Et en fait, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Vocation, dans lequel deux jeunes femmes qui sont vraiment brillantes un peu décortiquent plusieurs métiers. Et en fait, de ce que je comprends, en fait, c'est qu'une fois qu'on atterrit dans une école de co, il y a tellement de choses, en fait, il y a tellement de métiers, parce que le management, c'est tellement vague et ça veut rien dire, et en même temps ça veut tout dire, que une fois sur place, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire, et du coup la plupart des gens s'orientent vers les filières les plus prestigieuses et en fonction de ce que leur école leur permet. Et du coup, par exemple, pour les top 3, ils vont souvent tous en finance, et on les retrouve d'ailleurs tous dans les banques, dans les fonds d'investissement, dans les grosses banques d'affaires, etc. Et pareil pour les ingénieurs, j'imagine, il y a tellement de filières différentes en ingénierie que, et étant donné qu'on demande juste aux élèves de choisir leur cours sans vraiment leur expliquer ce qu'il y a dedans, un outil comme Impala serait particulièrement intéressant.
Je pense.
C'est une possibilité.
Non. Ouais, alors, ouais, probablement à terme. Bon, okay. Ça reste plutôt un public un peu plus jeune pour l'instant.
Ok.
Mais ouais, carrément, carrément.
Ok. Parce que vraiment, on comprend pas les catalogues des cours des écoles de cours. Moi, j'ai des amis à l'ESSEC, je vois leur catalogue, je me dis, mais comment tu peux choisir, en fait? Ça, tout se ressemble et tout est pareil. Ok. J'ai juste une dernière question. Tu fais quoi de ton temps libre?
Ça dépend quand j'en ai.
T'en as déjà, est-ce que t'en as du temps libre?
Ouais, j'en ai. Puis je le prends. Là, en ce moment, sur la rentrée scolaire, j'en ai peu quand même. Sur la rentrée scolaire, c'est toujours un peu le moment violent de l'année. Mais non, non, je fais plein de trucs. Je me politise de plus en plus. Je découvre le militantisme de diverses manières. Je découvre un peu toutes les. En fait, j'essaie de déconstruire aussi mes propres préjugés que je pouvais avoir sur un peu le monde éducatif et le monde qui nous entoure. J'essaie de comprendre comment fonctionnent les partis politiques, c'est de comprendre les différents courants politiques, les différentes idéologies, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, ce en quoi je crois, etc. Je lis pas mal de trucs sur ces sujets-là en ce moment. Je fais pas trop de sport, j'avoue. J'aime bien faire des week-ends un peu absurdes, des week-ends de survie en forêt avec juste le minimum syndical, et je trouve ma bouffe là-bas ou pas d'ailleurs. Comme ce qui arrivait la dernière fois, je sais pas. En général, dans mon temps libre, j'aime bien faire des conneries de ce style. Ça me donne pas mal d'énergie. Et j'ai pas mal de potes qui sont dans le même délire, donc.
Et surtout, ça te permet, enfin, c'est nécessaire de couper, parce que sinon, tu deviens fou si tu fais que travailler tout le temps, tout le temps.
Après, moi, j'ai une vision de l'entrepreneuriat qui est assez, je sais pas, one piece-ienne, c'est-à-dire très aventurière. Je pense que le délire actuel de vouloir tout subdiviser, j'ai ma vie perso, ma vie pro, j'ai ma vie bidule, j'ai ma famille d'un côté, mes amis de l'autre, je trouve ça un peu con. Et c'est assez récent comme truc, de vouloir tout le temps tout subdiviser. Et on le fait pour se protéger, parce que le monde capitaliste dans lequel on vit est assez violent, avec une forme de subordination perpétuelle, une exigence de rentabilité, de productivité en permanence. Et du coup, c'est une forme de protection de se dire « je vais subdiviser ». Et je la conçois complètement, et c'est tout à fait logique. Néanmoins, me dire que j'ai d'un côté mes amis, ma vie perso, et de l'autre côté, j'ai mon vie pro… Enfin, je trouve que tu rentres complètement en dissonance. Moi, j'ai une vision et je l'appuie tout le temps, et basta, tu vois. Et j'ai envie de rentrer de plus en plus en cohérence là-dedans, du coup, en fonction de mes croyances, tu vois. Et comme ce sont mes croyances qui guident mes pas et mes pas là, j'ai envie que ce soit aussi ces mêmes croyances qui guident mes pas quand je suis dans ma vie perso, si on peut dire comme ça. Du coup, qu'est-ce que je fais de ma vie perso? Une pas là et pas une pas là, tu vois. Et j'essaie d'être assez cohérent dans ce genre de délire. J'essaie de reproduire les schémas gentils, au sens beau du terme, c'est-à-dire gentil, que je vois chez les enseignants dans les établissements, et les appliquer à mes vies perso, et je trouve que c'est hyper satisfaisant.
Eh ben, très bien, merci beaucoup pour ton temps, et je te dis à très bientôt.
À très vite, ciao.
Merci à Hector pour son temps et son accessibilité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à vous abonner à la newsletter. Toutes les infos sont dans la description. Je vous souhaite quant à moi une très bonne semaine et à très bientôt !